Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, aujourd'hui c'est le solstice d'été. Et qui dit été dit fête de la musique. Et chez Libre à vous, c'est la fête de la musique libre. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir trois artistes qui diffusent leur musique sous licence libre. Également au programme, la musique et le droit, dans la chronique In Code We Trust de Naomi Berger. Et en fin d'émission, les Costi nous chanteront un petit pop-pop-imap-pou dans leur chronique à cœur vaillant, La Voix est libre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 juin, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa.
Salut Étienne, bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors pour commencer cette émission placée donc sous le signe de la musique, Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, nous propose une chronique sur le thème de la musique et du droit. C'est la chronique In Code We Trust. Bonjour Noémie, est-ce que tu es bien avec nous ?
Bonjour Étienne, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien nous t'écoutons.
Merci Étienne. Alors la chronique de ce jour est consacrée à la musique et au droit. Le droit de la musique en d'autres termes. Les règles applicables à la création musicale et à l'exploitation de cette création vont se retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle. On y trouve des dispositions communes avec les autres créations et des dispositions spécifiques. En France, il faut savoir que la musique est appréhendée sur le plan juridique par d'une part le droit d'auteur, qui correspond au droit qu'ont les auteurs, et d'autre part au droit voisin, qui n'ont rien à voir avec le domaine immobilier, mais qui sont bien les voisins des auteurs. Donc ce sont notamment les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on ne retrouve pas le terme « musique » à proprement parler. Mais à l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, on découvre que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les œuvres dramatico-musicales, à savoir les opéras, qui sont des œuvres littéraires et musicales, mais également les compositions musicales avec ou sans parole, donc la musique instrumentale ou la musique chantée. Comme pour les autres œuvres protégées, je rappelle que les compositions musicales, pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, doivent être originales. Donc là, on a trois parties d'une composition musicale qui peuvent être protégées. La mélodie, c'est-à-dire l'air, le thème, l'harmonie, d'autre part, les accords des sons, leur enchevêtrement, la combinaison des sons qui sont perçus par l'oreille, et enfin, les rythmes, les mesures, les cadences qui peuvent aussi être protégées. Alors, dans l'analyse de l'originalité, on voit toujours ressortir en place prépondérante la mélodie, qui est la plus évidente à caractériser. Ce sont toujours les juges qui reconnaissent l'originalité d'une œuvre lorsqu'elle est remise en cause dans le cadre d'un contentieux. Et je renvoie pour ça à la chronique que nous avions préparée sur l'originalité des œuvres. Et donc, il faut savoir que parfois, certains juges ne vont pas appliquer l'originalité de la même manière pour les compositions musicales et vont, pour déterminer si l'œuvre est originale, se fonder sur l'absence d'antériorité. C'est le critère de la nouveauté qui, normalement, n'est pas appliqué en droit d'auteur, mais ici, on le retrouve souvent dans les décisions de justice qui concernent la musique. Donc c'est vrai que la musique, elle est extrêmement large. On part du classique. Aujourd'hui, nous avons les musiques électroniques. Et c'est un domaine, en fait, dans lequel on retrouve aussi beaucoup d'œuvres dérivées. Donc ce sont des adaptations d'œuvres préexistantes. Leur définition juridique, elle est prévue à l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège, en fait, les œuvres dérivées de la même manière que les œuvres préexistantes. Et donc, c'est vrai que la protection par le droit d'auteur, donc je rappelle, elle permet de bénéficier de droits patrimoniaux, donc à l'auteur de pouvoir exploiter son œuvre, mais aussi de droits moraux, donc pour protéger l'œuvre. Ces droits moraux, elles sont attachées à la personne de l'auteur. À côté des auteurs, nous avons aussi d'autres acteurs de la musique qui bénéficient, comme je disais tout à l'heure, de droits voisins, à savoir les producteurs de phonogrammes, donc qui sont définis aussi dans le code de la propriété intellectuelle comme les personnes physiques ou morales qui sont à l'initiative et à la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons. On peut aussi trouver dans le droit de la musique les artistes-interprètes qui vont interpréter une œuvre musicale. Et enfin, il y a un acteur dont on entend assez souvent parler, ce sont les sociétés de gestion collective. Donc elles ont en charge de collecter les droits d'exploitation et de les reverser aux auteurs. Et on en parle beaucoup parce que évidemment, l'activité même des sociétés de gestion collective, elle a toujours été de temps à autre remise en question. Et elle l'a été récemment dans le domaine de la musique libre, puisque il n'existe pas de définition légale de la musique libre de droit. On peut considérer que c'est un auteur qui va décider d'autoriser les tiers à exploiter son œuvre dans les conditions d'une licence libre. Mais ce qui est compliqué pour cet auteur, c'est qu'il va être confronté en fait au poids des sociétés de gestion collective auquel il ne va pas forcément adhérer. Et on a eu un cas de jurisprudence récente qui concernait la plateforme Jamendo et plus spécifiquement la société Saint-Maclou. Alors vous allez me dire, que fait la société Saint-Maclou spécialisée dans la décoration des sols, murs et fenêtres dans un sujet pour la musique sous licence libre? Eh bien, la société Saint-Maclou avait signé en 2009 un contrat avec l'éditeur de la plateforme Jamendo pour pouvoir diffuser de la musique libre de droit dans ses boutiques. Et deux sociétés de gestion collective ont poursuivi la société Saint-Maclou pour lui réclamer le paiement d'une rémunération équitable. Alors la rémunération équitable, elle est prévue par l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle qui en fait prévoit que l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvre droit à une rémunération au profit des artistes, interprètes et des producteurs. Et donc sur ce fondement, les sociétés de gestion collective reprochaient à la société Saint-Maclou de ne pas avoir reversé de rémunération équitable, ce qui était évidemment contesté par la société Saint-Maclou, mais également par les éditeurs de la plateforme Jamendo. Devant la cour d'appel de Paris, il a été fait droit aux demandes des sociétés de gestion collective, puisque la cour d'appel a considéré que la musique qui était diffusée dans les magasins devait être soumise à une rémunération équitable, même si leurs auteurs n'étaient pas adhérents des sociétés de gestion collective. Donc, la société Saint-Maclou s'est retrouvée condamnée à payer 120 000 euros au titre de cette rémunération. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation et la Cour de cassation s'est prononcée le 11 décembre 2019 et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel considérant que la rémunération aurait dû être versée aux sociétés de gestion collective, tout en relevant que les auteurs pouvaient se rapprocher des sociétés de gestion collective pour toucher leur part de rémunération équitable, ce qui paraît en réalité vraiment totalement improbable. Et c'est vrai que cet arrêt, il a été beaucoup commenté et critiqué, hein, parce que c'est vrai que sa motivation en fait empêche véritablement les artistes d'émerger, d'exploiter leur musique comme ils le souhaitent. Et donc c'est vrai que ça reste quand même une restriction importante à la liberté, d'autant que ces sociétés de gestion collective, on leur reproche aussi de temps à autre des frais de gestion, une façon de gérer les fonds de manière un peu opaque. Et c'est vrai que voilà, cet arrêt, il aurait pu être rendu de manière différente. Bon, on s'attendait à quelque chose de différent, ça a été confirmé malheureusement. Et c'est vrai que voilà, c'est un contentieux qu'on voit de temps en temps ressurgir, et pour l'instant, ce qui n'évolue pas trop, mais on espère peut-être qu'à l'avenir, les choses vont évoluer. On sait que c'est le monde de la musique est en pleine mutation. On a les plateformes NFT avec, je rappelle que là-dessus, on avait fait une chronique sur les non-fungible tokens. On sait que Il va y avoir des évolutions dans le domaine de la musique et voilà, on espère qu'un jour le tournant va se faire de manière peut-être plus équilibrée pour tous ces acteurs. Et on retrouve, c'est vrai, c'est le domaine de la musique est un domaine dans lequel les contentieux sont très variés parce que vous pouvez avoir des sujets sur la rémunération des artistes, vous pouvez avoir des sujets sur le contenu de la pochette d'un disque, vous pouvez avoir plus récemment et à regret des fermetures de salles de spectacle au moment du Covid. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de la construction du droit de la musique. Alors voilà, malheureusement, on peut avoir des litiges, il y a des difficultés qui peuvent intervenir, mais bon, tout cela ne nous empêchera pas de nous amuser et je souhaite à tout le monde eh bien, une très bonne fête de la musique.
Merci beaucoup Noémie, et à toi de même, un bel été, une bonne fête de la musique. Merci pour ton analyse et pour ces réflexions effectivement très intéressantes, notamment juste avant d'échanger avec des artistes qui justement diffusent leur musique sous licence libre. Donc un grand merci à toi Noémie, puis donc une belle fête de la musique.
Merci Étienne.
Et puis je vais profiter, puisque Noémie a beaucoup parlé effectivement des sociétés de gestion, je vais me permettre de rajouter une petite couche effectivement à la liste des qualités que Noémie leur a beaucoup citées, parce que l'April agit beaucoup au niveau donc de l'action institutionnelle, au niveau auprès des décideurs publics, des parlementaires. Et il y a un an maintenant, lors d'une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui a touché un petit peu au précaré de ces sociétés de gestion de droits, puisqu'elle concernait les biens. Le réemploi de biens, les biens reconditionnés, et ça touchait à ce qui s'appelle la copie privée, qui est une manière pour eux de se financer. Et dans le cadre de ces débats, des députés ont parlé justement, on se sont publiquement exprimés en pleine assemblée, ce qui est rarissime, pour signaler la pression mise, voire les menaces exprimées par certains représentants de ces sociétés de gestion. Voilà, donc je me suis permis peut-être de rappeler aussi cette considération. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Alors pour cette première pause musicale, puisque c'est la fête de la musique libre, j'ai voulu repartager avec vous un de mes morceaux préférés de la playlist de Libre à vous, un morceau que j'ai pu découvrir justement en cherchant des musiques libres. Et nous allons donc écouter Arcane par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Arcane par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, et qui donc protège, hein, ces licences libres, hein, qui protègent les droits des utilisateurs, des écouteurs et des écoutrices, inventons des mots, pourquoi pas. Et donc cette licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commercial, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et je profite vraiment, puisque nous parlons de fête de la musique libre, pour rappeler que toutes nos pauses musicales sont donc sous licence libre et qui permettent ce partage le plus libre et le plus large possible à nos proches, et puis de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux, comme justement cette licence Creative Commons Attribution, ainsi que la Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA, ou encore la licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Alors pour cette émission spéciale Fête de la musique libre, nous avons voulu donner la parole à des artistes qui publient leur musique sous licence libre. Et nous avons déjà des musiques dont nous avons déjà diffusé dans Libre à vous. Nous entendrons donc Corentin des Gueules Noires qui interviendra en direct par téléphone, Minda Lacey, une artiste américaine dont nous avons enregistré et traduit l'interview. Et avant cela, je vous propose d'écouter Thibaut Dallery du projet musical Lumpini, interview que nous avons également préenregistrée faute de disponibilité ce jour. Donc on écoute donc cet échange et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voix des possibles. J'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dallery avec moi aujourd'hui dans cette émission spéciale sur la musique libre, sur la musique, en ce 21 juin. Donc Thibaut, bonjour.
Bonjour, bonjour Étienne.
Ah bah, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors je m'appelle Thibaut Dallery, j'ai 30 ans, et là je viens parler de mon projet qui s'appelle Lumpini. Donc c'est un projet, de composition que j'ai réalisé là sur les dernières années. En fait, l'idée c'était de finaliser puis d'enregistrer plusieurs compos que j'avais créés depuis longtemps, depuis certaines 10-15 ans quand j'étais au lycée, et voilà, j'ai eu l'inspiration et l'idée d'enfin les finaliser, et ça a donné ce projet à Lumpini.
Super, Lumpini, on précise, je crois que c'était il y a une ou deux semaines, on a diffusé effectivement un de vos morceaux, parce que l'album est sous licence libre, on y reviendra plus tard. Donc vous êtes musicien professionnel, c'est une passion que vous avez depuis longtemps?
Ouais, alors c'est pas mon métier. Là, je suis professeur des écoles, mais c'est une passion que j'ai. J'ai commencé à 13 ans et ça m'a pas lâché. Donc, c'est une passion super importante que j'essaie de poursuivre.
Vous faites, qu'est-ce que vous faites jouer comme instrument ?
Je joue de la guitare principalement. C'est surtout ça que je joue là sur ce projet, avec un petit peu de basse aussi et de clavier. Mais l'idée là sur ce projet-là, c'était de... Moi, surtout de jouer de la guitare, et puis pour tout ce que j'ai du mal à jouer comme instrument, donc il y a aussi de la batterie, du saxophone, il y a un peu de flûte, et puis des parties de basse et de clavier compliquées, j'ai demandé aux copains qui font ça beaucoup mieux que moi.
Du coup, c'est un projet entre amis, si je comprends bien ce que vous me dites.
Oui, c'est ça. Par contre, j'avais joué aussi dans plusieurs groupes avant, là c'était vraiment l'idée de prendre des compos à moi, de faire tous les arrangements et puis après de donner un matériel un peu déjà bien ficelé aux musiciens.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails justement sur l'histoire, sur la genèse de ce projet, comment vous l'avez construit, donc sur plusieurs années ce que vous me dites. Je crois qu'il y a eu, vous avez fait un album sur c'est le résultat de ce projet pour le moment, si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger bien sûr.
Ouais, c'est ça. Et en fait, comme je disais, oui, l'idée c'était de finaliser des compositions que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a un peu donné le déclic, c'est j'ai eu l'occasion de vivre en Thaïlande et j'ai rencontré là-bas un musicien qui était très fort pour faire ça, pour arriver avec des compos et puis trouver des musiciens, les jouer, les enregistrer, tout ça en quelques mois. Et voilà, moi, je me rendais compte que j'avais des morceaux qui traînaient depuis longtemps. Donc en rentrant, en fait. J'ai acheté le matos pour enregistrer et puis ça m'a donné l'inspiration pour pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà, du coup, d'ailleurs, il y a une référence à la Thaïlande dans le nom du projet, puisqu'il s'appelle Lumpini. Lumpini, c'est un parc à Bangkok. C'est aussi la forêt dans laquelle est né le Bouddha, suivant la légende. C'est aussi un stade de boxe thaïlandaise. Donc voilà, ça m'amusait d'avoir ce mot qui a plein de connotations et puis qui fait référence à la Thaïlande comme nom du projet aussi.
Et dans cette démarche, parce que je trouve que la qualité, enfin moi je trouve la, enfin j'ai pris énormément de plaisir à écouter tout l'album et pas seulement le morceau qu'on a déjà pu diffuser, Elevating. Et je trouve que la qualité remarquable, enfin je dirais vraiment que ça a été enregistré dans des conditions professionnelles. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû entre guillemets surmonter dans la réalisation de ce projet? Ça s'est passé relativement facilement?
Déjà, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas fait ça dans un studio pro, ça a été vraiment chacun chez soi avec son matériel. Donc c'est une carte son et puis un logiciel, un séquenceur quoi, pour pouvoir ensuite mettre ensemble tous les morceaux. Et puis après, il y a eu quand même un long travail de mix et de mastering, donc c'est les deux étapes une fois que tout a été enregistré. Et c'est ça, je pense, qui a permis d'améliorer et de vraiment faire prendre un peu de niveau au rendu sonore quoi. Donc ça a été assez long, mais finalement voilà, ça permettait de bien avancer avec des enregistrements de basse finalement assez simples et assez modestes quoi.
Et vous, comment vous qualifieriez, alors je pense que c'est pas toujours facile de qualifier un style sur une musique parce que ça enferme peut-être, mais bon, si vous deviez décrire ce qu'est la musique Lumpini.
Ouais, en effet, c'est pas facile. Je pense qu'il y a peut-être ce qui est au centre, c'est quand même la liberté instrumentale. C'est de la musique instrumentale déjà, et ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la liberté instrumentale qu'on retrouve dans le jazz, par exemple, avec beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation. Je pense qu'il y a aussi l'énergie du rock, parce que c'était pas mal cette musique que j'écoutais aussi à l'époque où j'ai composé la plupart de ces morceaux. Il y a un peu des couleurs aussi, des couleurs orientales parfois, et puis tout un travail sur la progression de l'énergie. Donc par exemple, comme on peut retrouver dans du rock progressif ou du post-rock. Voilà, donc il y a un petit peu de tout ça, et puis peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas.
En tout cas, c'est la manière dont vous avez décrit me fait écho, en tout cas, à ce que j'ai pu ressentir en écoutant la musique. Alors c'est vrai que moi, quand j'écoute, alors, je ne suis pas du tout... j'aime écouter de la musique comme... beaucoup de gens, mais j'ai pas une oreille du tout professionnelle, mais experte. Mais j'aime bien, c'est vrai, quand j'écoute de la musique, retrouver un petit grain de folie dans la musique. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant Lumpini. Est-ce que ça vous parle si je vous dis ça?
Oui, ça me parle. Bah, c'était un peu l'idée aussi. Et là, le morceau qu'on va écouter, c'est peut-être le moins aventurier, le plus. Oui, voilà, on peut dire ça, le moins aventureux. Il y a des morceaux sur lesquels c'est assez expérimental. Du coup, ouais, je vous invite, si le petit aperçu qu'on va avoir là vous plaît, à écouter aussi les 5 autres titres qui sont... c'était aussi l'idée de prendre un peu des risques avec la musique et de voir où est-ce que ça peut nous amener.
De toute manière, vous l'avez décrit, de toute façon, j'ai l'impression que pour vous, le but, c'était de vous faire plaisir.
Oui, c'est ça. Comme je disais, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas vraiment d'impératif. C'est vraiment j'ai la chance de pouvoir faire la musique comme je l'entends, et puis avec des amis aussi qui suivent. Donc c'était vraiment pour le plaisir et puis voir un petit peu ce que ça pouvait donner en poussant ce processus d'enregistrement jusqu'au bout.
Alors effectivement, vous avez dit on va écouter après notre échange le morceau Elevating. Bien sûr, nous invitons toutes les personnes qui nous écoutent à découvrir tout l'album. Comme je disais, il y a 5 morceaux. On mettra le lien sur la page de l'émission pour que les personnes puissent le retrouver facilement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus précisément, vous avez déjà commencé à le faire, mais un peu plus précisément de ce qu'est ce morceau Elevating, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que...
Ouais, donc c'est un morceau, c'est celui qui laisse le plus de place à la guitare. Donc il commence par une intro avec des harmoniques de guitare. Ensuite un thème un petit peu plus rythmé, une mélodie un peu plus rythmée. Et puis ça évolue ensuite vers une deuxième partie qui est un peu plus rock, un peu plus lourde. L'idée c'était aussi là d'utiliser la guitare pour avoir des sons un peu qui nous enveloppent, qui viennent un peu de tous les côtés, puis qui deviennent de plus en plus denses. Et ensuite, ça se résout un petit peu sur une partie plus calme aussi vers la fin. Voilà.
Ben, nous allons écouter ça juste après l'échange, mais j'aurais quand même une dernière question pour vous, parce que c'est vrai que nous, dans Libre à vous, comme nous diffusons exclusivement des musiques sous licence libre, et c'est parce que vous avez placé votre musique sous licence libre que nous avons eu le plaisir de la diffuser, quelle place prend ce choix? Est-ce que ça s'est fait juste comme ça parce que c'était pas le but de faire de l'argent? Est-ce qu'il y a vraiment une conviction derrière sur la libre diffusion de votre musique? Quelle était votre démarche?
Oui. Bah, je suis pas un spécialiste des licences libres, mais c'était quand même important pour moi que ce soit en diffusion libre. Et puis, il y a aussi toute une réflexion quand même sur la propriété en général, et puis encore plus dans l'art. Je trouve que quand on fait de la musique, on est vraiment influencé par tout un tas de choses, et c'est assez difficile de dire voilà, ça c'est ma musique et ça m'appartient. Moi, je vois pas les choses comme ça. Donc ça reflétait ça. Et puis je pense qu'il y a aussi un lien avec... dans le jazz, il y a cette tradition de reprendre des morceaux, reprendre des standards. Et voilà, chaque groupe, chaque artiste en fait sa version. Mais du coup, c'est un peu s'inscrire là-dedans. Et moi, je serais très content si des gens veulent reprendre les morceaux et même faire quelque chose à partir de ce matériel avec grand plaisir. Donc, c'était aussi cette idée-là.
Et c'est amusant parce que la manière dont vous décrivez cela, ça, je pense que c'est vraiment dans l'idée de l'éthique hein, du logiciel libre et je pense notamment voilà dans cette idée de récupérer ce qui a pu être développé ailleurs, de construire ensemble, que il y a pas une propriété exclusive parce que la progression, qu'elle soit créative ou technologique, elle est incrémentale, etc. Donc le pont entre la création musicale et le logiciel, je le trouve finalement très amusant et intéressant quoi. Ça dit beaucoup sur la connaissance en général. Écoutez, un grand merci pour ce temps d'échange, Thibaut. Et puis, nous allons écouter après cela le morceau Elevating. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup à vous et pour la diffusion et puis pour cet échange. Et puis, très bonne journée également. Merci.
Voilà, comme nous l'évoquions en fin d'interview, nous allons donc écouter Elevating par Lumpini. On se retrouve dans environ 5 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. 93.1.
Nous venons d'écouter Elevating par Lumpini, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Merci encore à Thibaut Dalry de nous avoir consacré du temps et nous vous encourageons vivement à écouter tout l'album.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors pour notre deuxième interview, j'ai normalement le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Corentin des Gueules Noires. Bonjour Corentin.
Bonjour Étienne, merci pour l'invitation.
Merci de prendre ce temps pour échanger avec nous. Bon, je vais commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, je m'appelle Corentin, j'ai 29 ans, je suis saxophoniste dans le groupe Les Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'est un groupe du nord de la France qui existe depuis maintenant 10 ans. Et on est avant tout une bande de jeunes amis qui sont pour la plupart rencontrés au lycée et qui avons appris la musique dans des écoles de musique où certains ont eu la chance de faire quelques petites années en conservatoire. Et voilà, on s'amusait bien, on faisait des soirées ensemble, on écrivait un peu de musique. Et voilà, c'est un peu un projet amateur pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux copains.
Et qui est toujours actif?
Qui est toujours actif. Alors c'est de plus en plus dur parce que c'est vrai qu'en grandissant avec l'âge, on a tous des parcours professionnels un peu différents, des familles, mais on essaye de garder le projet quand même en vie et de pouvoir se revoir de temps en temps.
D'accord. Alors musicalement, comment vous définiriez le style des Gueules Noires? Je sais que c'est pas
alors,
forcément une question facile.
On s'est, bien sûr, on s'est longtemps revendiqué du ska. Donc le ska, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, ça s'écrit S-K-A, et c'est une sorte d'ancêtre du reggae, qui était une musique un peu festive pour danser en Jamaïque, qui s'est ensuite exportée en Angleterre dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, avec des groupes comme Madness ou The Specials. Et ensuite, ça s'est réparti un peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'était l'idée d'avoir une musique un peu festive, un peu cuivrée, avec voilà du côté rock, un qui tire un peu sur le punk de temps en temps. Et voilà, en France, on appelle souvent ça plutôt du rock alternatif dans son ensemble. Voilà, ça mélange pas mal de styles.
Et alors, faut me corriger si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le ska et le punk sont quand même des musiques qui sont souvent assez politiques, et j'ai l'impression aussi que c'est le cas des Gueules Noires quand on écoute les paroles.
Oui, en effet, on a toujours été plutôt ancré à gauche. Voilà, c'est un peu... on vient de là, on était une bande d'amis toujours un peu en manif, on aimait beaucoup parler de politique, on avait tous des engagements un peu différents, donc ça faisait des soirées de conversation un peu animées, voilà, mais on aimait bien avoir quand même jouer dans des soirées voilà, pour des causes ou des choses comme ça, essayer de voilà faire passer un message et en même temps passer un bon moment, voilà, c'était un peu cette idée-là.
D'accord, donc la lutte, la joie dans la lutte...
C'est un peu ça, c'est une ambiguïté qu'on retrouve un peu dans la musique, qui a un côté un peu festif et un peu triste et un peu revendicatif. Voilà, on passe un peu par toutes les palettes des émotions.
Et du coup, j'imagine bien que le nom Les Gueules Noires n'est pas complètement anodin.
Voilà, ça faisait référence aux mineurs du nord de la France qui travaillaient dans les mines de charbon qu'on appelait Les Gueules Noires. On a trouvé rigolo de reprendre ce nom-là aussi pour une forme d'hommage et une forme de message. Voilà.
Et puisqu'on parle justement de politique, de notre point de vue, le choix de mettre sous licence libre est plutôt quelque chose de politique. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que vous avez placé votre musique sous licence libre?
En fait, nous, ça a été un peu une sorte de rébellion anti-SACEM et anti-société de gestion de droit. Parce qu'on a été assez embêtés en tant que musicien amateur. On va dire dans toutes les salles de concert où on allait, où on nous demandait de signer des déclarations de SACEM alors qu'on n'était pas membre de la SACEM et on voulait pas l'être. On a aussi eu on s'est renseigné quand même, on a regardé la SACEM comment ça fonctionnait et on a vu les contrats, on a vu des clauses qui nous plaisaient pas trop. Déjà, je crois que c'était 200 € l'inscription par membre vu qu'on est 6 musiciens amateurs. Ça fait déjà très cher, donc de l'argent un peu perdu qu'on récupérera jamais. Ensuite, voilà, c'était un peu une sorte de voilà la SACEM. Et puis aussi dans les contrats, il y avait le fait de quand on adhérait à la SACEM, il y a des clauses de confidentialité qui nous empêchent de critiquer ce que fait la SACEM. Donc c'est pour ça que vous entendrez pas beaucoup les musiciens se plaindre de la SACEM, c'est que souvent ils n'ont pas le droit, c'est dans leur contrat. Et donc voilà, on n'avait pas trop envie de signer ça. Voilà, on a aussi été à l'époque, on est de la génération qui a grandi aussi dans les années 2000, donc pour nous, on a beaucoup téléchargé illégalement de la musique sur des lecteurs MP3, sur des CD gravés, et on avait aussi envie que notre musique puisse se diffuser à travers le monde. Les licences libres, ça nous a un peu permis ça aussi, où on a vu que notre musique se retrouvait sur des blogs de musique mexicaine, de gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus. Et voilà, c'est aussi ça l'avantage de la musique libre, c'est que ben, il n'y a pas beaucoup de musiciens qui en font, et du coup ça se diffuse très rapidement et très largement, il n'y a pas de restriction.
Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé à passer sur Radio Cause Commune et à faire cette interview aussi. Alors du coup, bon, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de concerts. Visiblement, vous avez aussi enregistré en studio. Vous faites des deux. Vous avez une préférence. Quelle est
C'est ça. Alors, on avait enregistré un premier album en studio. Et là, pour le dernier petit album de quatre titres qu'on a sorti, on avait voulu se lancer le défi de faire un enregistrement live. Donc du coup, c'est un peu plus brut, on va dire. On voulait essayer de retrouver l'énergie des concerts. Donc on a enregistré ça dans un théâtre, juste avant le confinement d'ailleurs. Et voilà, on avait un théâtre, des micros, et on s'est dit, allez, on va essayer d'enregistrer ça avec presque pas de retouches au final et pour voir ce que ça donne. C'est un peu une expérience.
D'accord, bon, ça me fait quand même penser un peu à cet esprit ska peut-être que vous avez décrit.
C'est ça.
Alors une question qu'un auditeur de Libre à vous que j'ai relayé, pardon, il me demande pourquoi il me disait, pardon, voilà, je bafouille. Il disait aimer demander aux musiciens pourquoi ils avaient choisi leur instrument. Je trouve que c'est effectivement une assez chouette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du saxophone?
Ah, c'est une bonne question. À la base, moi, quand j'étais petit, j'avais commencé par apprendre de l'orgue. Alors j'ai commencé la musique très jeune, j'avais 6 ans, et comme une réflexion pas très évoluée d'un enfant de 6 ans, j'ai voulu arrêter l'orgue parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de rock'n'roll. Et du coup j'ai regardé les autres instruments, j'ai changé, je suis arrivé dans une école de musique dans un petit village, et voilà, je découvrais un peu les cuivres, l'harmonie. Et je me suis dit, ben voilà, le saxophone, faut voir que dans le nord de la France aussi, on est un endroit en France où il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup d'harmonie, et donc on est un peu bercé par ces instruments-là, et je pense que ça a joué un peu inconsciemment, voilà, sur mon choix de prendre le saxophone comme instrument.
D'accord, cool. Autre question, du coup, vous jouez, j'ai l'impression que vous jouez peut-être un petit peu moins souvent, parce que vous disiez justement, effectivement, la vie fait que, mais vous jouez surtout, voilà. Et vous avez joué surtout dans le Nord, partout en France, peut-être aussi en Belgique.
C'est ça, oui, on joue beaucoup dans le Nord de la France et en Belgique. On a eu l'occasion, c'était il y a quelques années, de faire un petit festival en Angleterre où on a pu rencontrer un peu toutes nos idoles. Après, voilà, c'est vrai que l'organisation, les difficultés d'organisation font que c'est beaucoup plus facile pour nous de rester dans le nord de la France. Après, on est ouvert aux propositions.
Ben voilà, écoutez, si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de vous contacter, en passant par votre page Bandcamp, j'imagine qu'il est possible, parce que c'est comme ça que je vous ai contacté,
voilà,
donc je sais que c'est possible.
C'est,
et vous avez répondu en plus très vite, donc vraiment, si vous avez envie de prendre contact, je vous encourage à le faire, effectivement. Je vais relayer une autre question d'un autre auditeur qui constate qu'effectivement, dans le mouvement punk, il est assez, enfin, l'utilisation de licence libre n'est vraiment pas très courante, aussi bien dans la musique que le graphisme. Alors vous avez fait le choix de la licence libre, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Vous avez une explication? Ou pas du tout?
Je pense que c'est surtout une méconnaissance en fait, parce que je pense que la plupart des musiciens qui sont un peu dans le punk et dans les musiques alternatives, bon, on les entend beaucoup se plaindre de la SACEM, mais je crois que c'est juste une méconnaissance du sujet. C'est pas très connu chez les musiciens, les licences libres. Je sais qu'il y a un musicien punk qui utilise beaucoup les licences libres et qu'on aime bien, qui s'appelle Gare, Et voilà, mais c'est vrai que sinon, je pense que c'est surtout un manque de connaissance du milieu de la musique. Ça se faisait un petit peu dans les années 2000, mais c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les nouveaux usages et l'arrivée du rap, les nouvelles plateformes Internet ont réussi à adapter. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la SACEM aujourd'hui ou de mettre de la musique sur des plateformes que ce que c'était quand nous on a commencé. Donc il y a une certaine prise en compte, d'une certaine manière, les râleurs comme nous, on a dû un peu jouer sur la SACEM qui a dû sûrement changer ses façons de faire et essayer de simplifier et de s'adapter aux demandes des nouveaux musiciens.
Alors nous allons diffuser après notre échange un morceau de votre choix. Hein, vous avez choisi de nous proposer d'écouter L'Usine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau?
Oui, bien sûr. En fait, c'était un morceau qu'on avait écrit. À la base, la musique avait été écrite il y a 2013-2014. Et après, on a voulu la reprendre vers 2016 dans mes souvenirs. Et c'était un peu le moment où on parlait des conflits. On a un musicien qui est originaire de Saint-Saulve dans le Nord, et il y avait conflit de l'usine ArcelorMittal. Donc voilà, on a été un peu inspiré par ces événements et par ce qu'on voyait, par ce qu'on visait.
Ben, nous allons écouter ça juste après. Alors, juste, vous avez parlé, il me semble, de Prince Ringard, parce que le son a un peu sauté. C'était lui l'artiste.
Oui, c'est ça, Prince Ringard.
On a diffusé un de ses morceaux et c'est effectivement, c'est vraiment génial, Prince Ringard. Je remettrai le lien sur la page de l'émission pour inviter les personnes à écouter. C'est vrai que il a une voix extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup, Corentin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, notamment dans vos projets musicaux. Et puis, une bonne fin de journée et puis une bonne fête de la musique.
Merci et bonne fête de la musique.
Vous allez jouer aujourd'hui?
À bientôt. Ah non, aujourd'hui, on écoute les musiciens.
D'accord, c'est bien aussi. Ça marche. Allez, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Alors, un grand merci à Corentin de s'être rendu disponible pour cette interview. Et nous allons donc écouter, comme nous l'avons mentionné, L'Usine par Les Gueules Noires. On se retrouve dans environ 5 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. chacun prendra sa route, espérant vivre autrement. Pas concept politique passe avec des discours triomphaux, mais les paroles s'effacent abandonnant les métallos. Si les machines nous remplacent, partageons le boulot. Et si au pôle de la glace, ne produisons que ce qu'il nous faut. De vivre autrement, et le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. Chacun reprendra sa route, espérant vivre autrement.
Venons d'écouter L'usine par Les Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Un grand merci encore à Corentin de nous avoir donné ce temps. Une musique qui donne envie de danser et de lutter.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Pour notre dernière interview de cette émission faite de la musique libre, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Minda Lacy, une artiste que nous aimons vraiment beaucoup à Libre à vous et dont nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Alors pour des raisons évidentes de distance et de besoin de traduction, nous avons préenregistré le sujet la semaine dernière. Laure-Élise Deniel, que je remercie chaudement, a prêté sa voix pour enregistrer une version française. Je rappelle que Laure-Élise Deniel prête déjà sa voix au jingle de Libre à vous. Je vous propose donc d'écouter Minda Lacy. On se retrouve dans environ 15 minutes.
Bonjour Minda Lacy. Je précise que nous enregistrons cette interview parce que vous vivez sur la côte ouest américaine où il est 9h plus tôt qu'en France.
Oui, c'est vrai, il est 9h52 du matin et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Ce sont des fuseaux horaires très différents.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission spéciale Fête de la musique, car nous avons diffusé plusieurs de vos morceaux et nous sommes vraiment de grands fans de votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà, s'il vous plaît ?
Oui, c'est toujours une drôle de question. Présentez-vous, tout votre être, en quelques mots. En ce qui concerne ma musique, j'ai écrit des chansons presque toute ma vie. Je joue de la guitare depuis que je suis enfant Et j'ai toujours aimé jouer avec les mots et penser à des choses. Je pense que pour écrire mes chansons, je puise beaucoup dans cette idée de comprendre les choses, comme des questionnements philosophiques, des questions personnelles, des questions sur les relations avec ses amis. J'ai indéniablement une préoccupation pour des choses comme le temps, la mort, les insectes, mais pas d'une manière sombre ou triste, c'est plutôt une préoccupation joyeuse avec un cœur léger. C'est une sorte d'endroit curieux. Je pense que l'écriture de mes chansons, ma musique, puise sa source dans une exploration curieuse. Quand j'ai demandé à une de mes bonnes amies, Brooklyn, de décrire ma musique, elle a eu la meilleure explication et je l'utilise souvent. Elle a dit « C'est comme du folk lyrique avec un fond vaguement morbide et psychédélique et une douceur tout en légèreté qui rappelle une douce brise qui soufflerait dans la fourrure du ventre d'un chinchilla. »
Donc vous jouez de la guitare, vous écrivez des chansons, on peut dire que vous êtes vraiment une artiste complète.
Oui, la guitare est mon premier instrument et c'est clairement celui avec lequel je suis la plus à l'aise. Et je pense que l'énergie créative vient indéniablement de la composition musicale qu'elle permet. Je suis aussi clairement en train de grandir en tant que musicienne et c'est comme un chemin constant où j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et si la guitare est mon instrument de prédilection, j'explore aussi le piano, le ukulélé, et j'ai récemment acquis un synthétiseur. J'ai un ami qui m'en a vendu un pas cher. Et je m'amuse aussi un peu avec l'accordéon. J'essaye d'intégrer davantage d'instruments, mais vraiment la guitare est l'instrument avec lequel je suis la plus à l'aise, et c'est celui avec lequel c'est le plus facile d'enclencher le processus d'écriture de chansons. En fait, le ukulélé est un instrument très facile à jouer, et j'encourage tout le monde à jouer du ukulélé. On peut y arriver en quelques semaines à peine, et après vous avez un outil pour commencer à écrire des chansons. La guitare et le ukulélé sont vraiment de bonnes bases pour le processus d'écriture de chansons.
Vous avez des influences musicales particulières qui vous tiennent à cœur ?
Alors, quand on me pose cette question, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre musicien, même si, bien sûr, il y en a beaucoup que j'aime. J'ai le sentiment que la musique, en général, pas juste la mienne, a une place très importante pour moi et je la ressens à un niveau viscéral. Certains artistes me touchent et m'amènent dans cet état d'esprit créatif, mais la manière dont je traduis cette énergie créative est très différente de la manière dont ils le font. Certaines de mes influences, certains de mes musiciens préférés, ah là là, il y en a tellement. Parfois, quand je me pose cette question, j'ai l'impression d'oublier absolument tous les musiciens que j'ai jamais écoutés. J'aime beaucoup Tom Waits, Andrew Bird's Ball of Fire, ce qu'il a fait avec son groupe Ball of Fire. J'aime beaucoup aussi Pink Floyd, tous les classiques du rock, Led Zeppelin, Queen. Il y a beaucoup de musiciens locaux ou de musiciens avec qui je suis amie qui m'ont beaucoup influencée et je veux toujours les saluer. Il y a une telle culture musicale, toute cette musique si riche qui vient de personnes autres que celles dont on entend toujours parler. Je pense que un de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle Run on Sentence, qui est local de Portland et de Silver City. Moi, j'ai grandi à Silver City, alors c'est comme s'il était un local dans deux endroits où j'ai vécu. Il faut écouter Ron and Sentence, vraiment. Sa musique me permet indéniablement d'atteindre un état d'esprit créatif. J'aime beaucoup Lassa de Sela. Voyons voir. Il y en a tellement que je pourrais juste continuer sans m'arrêter. Je fais que lister celles et ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant.
Alors vous jouez plutôt en solo, je crois que vous jouez aussi dans des groupes. Vous avez plusieurs projets musicaux.
Oui, j'ai effectivement plusieurs projets musicaux. Je joue en solo, et c'est ce que vous pouvez trouver sous le nom de Minda Lacey. Et je joue aussi dans mon groupe, Bitches in the Beehive. Je joue des morceaux de Minda Lacey avec le groupe. Et je joue des morceaux de Bitches in the Beehive juste en tant que Minda Lacey. Je ressens certaines chansons comme étant clairement les miennes, et d'autres comme étant clairement celles du groupe. Et récemment, j'ai commencé un nouveau projet. J'anime une émission de radio sur une radio locale à Portland qui s'appelle Shady Pines Radio. C'est une web radio et tout le monde en France devrait y jeter une oreille d'ailleurs. C'est plein de DJ qui font des trucs bizarres. Et j'interview des musiciens, juste des interviews un peu improvisées où je pose des questions que l'on ne pose pas habituellement. Et j'avais reçu un invité, Luke Anthony, qui joue très bien de l'harmonica. Il en joue d'une manière très spécifique que peu de personnes jouent. Je l'ai reçu pour une interview et on a connecté à un niveau musical. Ces derniers mois, on a écrit plein de chansons ensemble, on a réfléchi à un nouveau nom de groupe. On a fait des brainstorming pour trouver un nom de groupe. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais je pense qu'on va faire des choses très très cool avec ce projet. Alors oui, pour le moment, trois projets donc. Sur Bandcamp, j'ai aussi publié un autre projet sous le nom de Just Buns, qui n'était que des amis et moi qui faisions un jam. Juste des amis qui avons eu l'opportunité d'enregistrer quelque chose avec le même gars qui avait enregistré mes albums, All Faces et Worms. Alors on est juste allé au studio, on a accroché un microphone au milieu de la pièce et on a juste joué. Sans vraiment s'entraîner, mais je pense que le résultat est vraiment très bon. C'était juste un truc unique, des amis qui jamment ensemble et on trouve un nom sur le moment. Voilà, voilà pour mes projets musicaux.
Vous jouez plutôt live, vous jouez plutôt en des enregistrements, vous avez une préférence entre les deux ?
J'aime bien jouer en live. Je joue en live à Portland et aux alentours avec mes deux projets. Bitches in the Beehive et mon projet solo. Je dois probablement jouer au moins une fois par mois dans des endroits très très différents. J'ai fait des tours do-it-yourself à travers l'état de l'Oregon où je contactais des lieux de spectacle et je montais dans mon van et je partais. Ça, c'était très amusant. J'aime aussi beaucoup le processus d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album qui, je pense, sera vraiment un bon album sous mon projet solo, Minda Lacey, et qui sortira en février. Tout le processus d'enregistrement est vraiment amusant parce qu'on peut juste revenir, tatillonner et bidouiller des trucs et juste dire « Hmm, je me demande si du synthétiseur ce serait bien ici ou du piano ». Donc jouer en live et en studio, c'est deux expériences très très différentes et j'aime les deux.
Une question assez classique, est-ce que c'est vous tirez un revenu de votre musique, est-ce que c'est même un objectif ?
Alors oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et oui, c'est le but. Je gagne de l'argent avec ma musique. J'ai mon compte Patreon auquel les personnes peuvent s'abonner pour $1 par mois ou plus si elles le souhaitent. Et j'y publie des chansons avant de les publier ailleurs ou des chansons que je ne publierai peut-être jamais. Et aussi des sortes de flâneries créatives. Et j'ai eu plusieurs patronnes au fil des ans, et clairement, c'est loin d'être au niveau d'un salaire, mais ça fait partie de mes revenus en tant que musicienne. En tant que groupe, on ne gagne pas vraiment d'argent, car tout ce qu'on gagne est partagé entre les membres du groupe, ou alors c'est réinjecté directement dans les projets du groupe. En faisant des tournées solo, tu peux arriver à te faire beaucoup d'argent, mais il faut que ce mode de vie te convienne. Au final, je pense que mes réflexions vont plus loin que ça, dans le sens que, en tant qu'artiste de tout type, on veut trouver une manière de passer notre temps à faire ce qu'on aime et à réaliser ce qu'on pense être fait pour. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est que faire de ce qu'on aime son travail, ça enlève le plaisir qu'on y prend. Et c'est un exercice d'équilibriste. Pour avoir le temps de le faire, tu ne peux pas passer du temps à faire d'autres choses. Mais tu ne veux pas non plus que cet endroit sacré, magnifique et joyeux d'écriture musicale devienne quelque chose de capitaliste et dénué d'âme. Voilà, il faut arriver à trouver des compromis et à trouver un équilibre. Je ne gagne pas ma vie avec ma musique, mais je gagne de l'argent avec. J'ai plusieurs petits boulots alimentaires qui me permettent de continuer en attendant. Mais je pense qu'au final, je devrais trouver une manière de faire en sorte que ça marche, à condition que je ne perde pas mon âme.
Alors nous avons trouvé votre musique et diffusé votre musique parce qu'elles étaient sous licence libre, plus précisément Creative Commons by SA. Quel est votre rapport avec ces licences libres ?
Alors, en tant que musicienne, je suis douée pour faire de la musique, mais j'ai toujours été assez mauvaise avec la technologie et je ne comprends pas grand-chose à tous les détails et à tout ce qui se passe derrière. Quand vous m'avez contactée pour cette interview et que vous m'avez expliqué le principe des Creative Commons, je me suis dit « Ah, des termes que je ne comprends pas, mais je suis contente de pouvoir faire une interview et que ma musique soit accessible. » Alors après en avoir appris un peu plus à ce propos, j'imagine que la personne qui a mis les albums en ligne les a publiés sous licence libre. Et j'en suis très contente car je veux que ma musique soit accessible. Par contre, mon album Beaches in the Beehive ne l'est pas et je voudrais aller changer ça. Alors, après en avoir appris plus, je suis d'accord avec les principes et je veux publier ma musique de cette manière. Je découvre seulement tout cela et ce n'était pas vraiment un choix conscient. Et je suis contente qu'il ait été fait par la personne qui l'a fait, car me voilà en train de faire cette interview avec vous.
C'est aussi un intérêt pour nous, parce qu'on est vraiment ravis en fait, de pouvoir propager un petit peu cette idée de la libre circulation de la musique et que ça puisse prospérer comme ça. Alors, une dernière question, ce que nous allons diffuser après cette interview, une de vos chansons, Lemony, est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette chanson ?
Cette chanson, c'est vraiment du n'importe quoi, loufoque. Mais il y a un peu plus de profondeur qu'il n'y paraît. Un des outils d'écriture de chansons que j'utilise parfois... Enfin, il m'arrive souvent de créer une mélodie très cool à la guitare et d'avoir du mal à écrire des paroles pour aller avec. Alors, je fais ce truc où je me contente de faire du remplissage. J'ai la mélodie en tête et pour ne pas m'embrouiller avec les mots, je remplis la mélodie avec n'importe quoi. Donc, sans raison particulière, je remplissais la mélodie avec le mot « lemony ». Et après, avec tous les mots qui venaient rythmiquement avec et qui rimaient à peu près avec « lemony ». C'était comme un de ces moments d'inspiration où tout semble s'aligner et cette espèce d'étrange flow absurde et cohérent a créé la chanson. Ce qui est amusant, c'est que souvent je réfléchis beaucoup aux paroles, et je pense que c'est un des aspects les plus importants de ma musique, et les gens sont touchés par mes paroles et réfléchissent sur ces choses assez profondes et philosophiques. Mais Lemony est souvent la chanson que les gens préfèrent. Enfin, Lemony est souvent une des chansons que les gens préfèrent parce qu'elle est si bête. C'est une chanson un peu bête et je l'aime. Et voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire à son sujet.
Je pense qu'on a besoin un petit peu de cette bêtise pour rendre la vie plus agréable aussi. Un grand merci, Minda Lessi. C'était vraiment un très grand plaisir d'échanger avec vous.
Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours très flatteur de recevoir un email inattendu venant d'un pays étranger qui te dit « On diffuse ta musique, viens faire une interview ». Ça n'arrive pas très souvent et ça me fait clairement me sentir appréciée. Vous appréciez ma musique et je vous apprécie pour ça.
De retour en direct sur Cause Commune. Donc merci encore à Laure-Élise Deniel d'avoir prêté sa voix pour enregistrer la version française. Et merci à Minda Lessi, bien sûr. La version originale sera disponible sous peu sur le site de Libre à vous si vous voulez entendre la VO, comme on dit, la version originale. Donc comme évoqué, en fin d'interview, nous allons donc écouter Lemony par Minda Lessi. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Lemony, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie was lemony, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. Jiminy Jiminy told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines, cause Jiminy knows that amphetamines are good for a hell of a lot of things, like clearing up the skies and cooking lemon pies. Amphetamines, amphetamines, amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies, and this lemon, 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 the 2 minute, 2 minute, 2 minute, 2 minute lemons in my pie. Criminy Jiminy found him, it crammed up in the chimney. Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-given me. And they were lemony, oh so lemony, that sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones to locate the enemies and reclaim our oh-so-precious abilities of making a lemony pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie.
Écoutez Lemony par Midalesi, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions une mélodie, moi, qui m'évoque l'été, et ça tombe bien, nous sommes le 21 juin, jour de fête de la musique libre sur Libre à vous. Alors je vais préciser que la version que nous venons d'écouter est une version que Midalesi a enregistrée en solo, et il existe aussi une version enregistrée avec son groupe Bitches and the Beehive, qui est différente et très sympa aussi, que je vous invite donc à découvrir, même si elle n'est pas encore sous licence libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Connu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre ». Certains trouvent ça chaud, la question des adresses mail, mais Laurent et Laurette Costi vont nous aider à y voir plus clair. Une chronique enregistrée il y a quelques jours. Pop hop, ima pouf.
Hello, fille de tes parents et fille préférée de ton père. Toujours besoin d'une adresse mail adaptée à tes besoins, qui respecte ta vie privée et qui t'émancipe des GAFAM et autres prédateurs du web?
Oui, et j'ai avancé de mon côté, te sachant très occupée en cette fin d'année, à ne pas passer de partiel.
Tu n'as que partiellement raison, car partialitaire je suis passé. Mais dis-moi tout, tu as trouvé la perle rare qui remplacera ton adresse mail intrusive actuelle?
J'ai passé beaucoup de temps à chercher et, conclusion, j'ai pas pu trop réviser comme je l'aurais souhaité. Du coup, j'ai eu une très mauvaise note en marketing.
Étant donné ce que tu sais déjà sur cette matière en acceptant jovialement de participer à cette chronique, je me dis que si tu avais retranscrit la teneur de nos échanges habituels, la note eût été pire encore. Donc, je te félicite pour cette mauvaise note en marketing. Je suis fier de toi, mais passons à ton inventaire.
Oh, merci papa, toi au moins tu sais faire preuve de soutien. Donc, j'avais retenu, dans ma shortlist orange, les services de mail sécurisés et respectueux des utilisatrices et utilisateurs suivants. Il y avait ProtonMail, Infomaniac, Mailo, Zoomail, Tutanota et Fastmail.
Je connais les deux premiers et j'ai entendu parler de Mailo et Tutanota.
J'ai écarté Fastmail directement parce que le site était en anglais. Ça ne me pose pas de problème en soi, mais ça m'évitera d'avoir à te traduire des pages si tu t'inquiétais pour ma vie privée. Puis ça ressemble vachement à un service qui vise prioritairement des anglophones, même si la page Wikipédia précise qu'ils ont des serveurs à New York et aux Pays-Bas.
Ils disent aussi que des êtres humains peuvent être contactés en cas de problème. Alors là, c'est respect. D'ailleurs, je l'affirme ici haut et fort, réinvestir dans l'humain pour le web 3.0, c'est carrément visionnaire. Bon, il reste donc 5 prétendants susceptibles d'honorer la lourde tâche d'acheminer tes correspondances épistoléro-courriélesques pour les semaines, mois et années à venir.
Tu veux dire transporter mes mails en fait? Mais du coup, oui. Il y a ProtonMail, Infomaniac, Mailo, Zoomail et Tutanota.
Tu as évalué tes besoins avant de choisir? Tu sais combien de mails tu envoies et reçois sur une période? La quantité de données que cela représente? Pour ma part, à titre indicatif, ayant commencé ma carrière professionnelle avec le mail, alors en plein essor fin des années 90, et surtout rechignant comme personne quand il s'agit de changer mes habitudes, j'utilise beaucoup le mail.
Oui, bah c'est très caractéristique de ta génération, cet amour du mail dans lequel glisser un gif est aussi relou que de faire enfiler une chaussette à un alligator.
C'est de Monsieur de Comptoir, cette expression? C'était quoi son prénom, d'ailleurs? Bon, bref, sur les 5 premiers mois de l'année, j'ai compté 1129 mails pro envoyés et 625 perso, ou liés à mes implications associatives. Comme j'ai des collègues et des amis, j'ai reçu, comme demande, ou plutôt comme relance, 1966 mails pro et 1328 mails perso ou associatifs.
C'était Brave son prénom. Brave de Comptoir. Bon, ça fait beaucoup de mails tout ça. Il doit plus te rester beaucoup de temps pour vraiment travailler. Mais soyons clairs, mon besoin est quand même bien moins grand. D'ailleurs, tu comptes les spams?
Non, bien sûr. Ils sont majoritairement filtrés par mon fournisseur d'accès ou par Thunderbird, pour lequel j'ai activé les fonctionnalités anti-spam. En passant, tu sais de quand date le premier spam? Qui l'a émis et dans quelles circonstances?
Alors, figure-toi que j'ai fouillé les sources que tu compiles laborieusement à chaque chronique, donc oui, je sais répondre à cette question. Et je regagne un bon doudou. Bon, du coup, le site arrobas.org est une vraie mine d'informations sur le sujet. Il n'aura pas fallu plus de 7 ans après l'invention du courrier électronique pour qu'apparaisse le premier spam.
Qui date donc du 3 mai 1978. Ce jour-là, sur le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet, Gary Tuerk, qu'il soit maudit jusqu'à la 42e génération, commercial de la société DEC, invitait par email 393 personnes à découvrir sa nouvelle machine.
Alors, je crois pas qu'il s'agissait de toilettes connectées, mais le plus truculent dans tout ça, toujours sur arrobas.org, c'est que l'on découvre que Bill Gates, alors patron de Microsoft, sûr de son pouvoir, de sa force et des capacités de programmation de Microsoft, avait annoncé la fin du spam avant fin 2006.
Hey Bill, qu'est-ce que tu glandes? On est en 2022. Il y a plus de 100 000 milliards de pourriels envoyés chaque jour. On t'attend toujours. Bon, ceci étant, à sa décharge, la complexité technique explique certainement la non-résolution du problème.
Bon, pour avancer sur ma sélection, j'ai lu que ProtonMail n'offrait pas de support POP3 et que le protocole qu'il recommande est l'IMAP. Est-ce que c'est grave, docteur Courrieleur?
Alors, j'en cause souvent avec mon prédécesseur Pascal Gascoin, mais je suis obligé de reconnaître ici, publiquement, devant les états auditeurs, qu'il a majoritairement raison quand il préconise plutôt l'IMAP devant le POP.
Oh là là, doit y avoir des arguments vraiment lourds pour que tu reconnaisses ta défaite.
Commençons par le début, veux-tu, plutôt que de dire des âneries plus grosses que ton nez au milieu de la figure géométrique de la quadrature du cercle. Tiens, en passant, la quadrature du net fait une campagne contre la Technopolis. Tu devrais aller voir et y signer.
Ton habile tentative de diversion est ratée. Défaite, défaite, défaite et encore défaite. Mais j'irai quand même voir la campagne. C'est pas drôle ces sujets-là, faut comprendre et soutenir.
Bon, commençons par rappeler ce que veulent dire respectivement POP et IMAP. Pour le POP, c'est l'acronyme de Post Office Protocol, littéralement protocole de bureau de poste. C'est le plus ancien des deux protocoles. La première version date de 1984 et le POP 3, la montée de version la plus récente, reste encore utilisée depuis 1988.
Dis-moi pas que cette opération transite sur un réseau TCP/IP qui utilise le protocole de transfert TCP via le port 110. Ce protocole est même défini par la RFC 1939.
C'est exactement ça. Et cette précision, en fait, c'est surtout pour Stéphane Borsmeyer qui relit la chronique. Je crains que si on ne parle que de toilettes connectées, ils finissent par s'ennuyer. En passant, pour mémoire, les RFC sont des documents numérotés décrivant les aspects et spécifications techniques d'Internet, entre autres. C'est primordial pour que tout le monde se comprenne.
Effectivement, ça me semble plus important que nos dérives scato, mais néanmoins logiques, parfois, et surtout très intéressantes. Et pour la IMAP, qui, si j'ai bien compris, est l'acronyme d'Internet Message Access Protocol, soit protocole d'accès à Internet pour la messagerie. Qu'en est-il donc?
RFC 9051 pour la version 4, révision 2. Et bim, deux RFC mentionnés dans une chronique. On frise non pas l'écran, mais le record.
Bon, je me demandais d'où venait ma compétence Lashbot plus 10 dans ma fiche de perso. Bon, maintenant je sais. Et sinon, je dois choisir quoi, moi? POP ou IMAP, du coup?
Bon, comme tu me sembles plus jeune que moi, j'aurais tendance à penser que tes usages vont plutôt nécessiter une configuration via le protocole IMAP. Je m'explique. Le protocole POP est adapté lorsque les connexions à Internet ne sont pas continues. Quand tu te connectes, il appelle les messages qui attendent sur le serveur. Ils sont intégralement chargés sur la machine locale. Tu peux choisir d'en laisser une copie un temps sur le serveur, mais quoi qu'il en soit, le résultat est une sorte de désynchronisation. Si tu te connectes avec une autre machine, tu vas appeler une nouvelle fois les messages qui sont sur le serveur si tu les y as laissés, ou rien s'ils ont été simplement aspirés.
Ok, ok. Bon, si je comprends bien, ce protocole est adapté lorsque l'on traite ses mails avec une seule machine. Au début de l'ère numérique, il n'y avait pas de surenchère à utiliser un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe, un ordinateur, une tablette 8 pouces, une tablette 11 pouces, un téléphone portable, un téléphone fixe. Ce qui a l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, de laisser plus de traces comportementales lorsque l'on est connecté en continu.
T'as pas lu deux fois la même phrase ?
Non, non.
L'autre avantage, ou inconvénient, c'est selon, c'est que les messages étaient stockés sur ta machine locale. Certes, il fallait penser à sauvegarder, mais ça évitait pour celles et ceux qui ne font pas attention de laisser indéfiniment des messages sur un serveur lointain et de squatter inutilement des espaces de stockage.
Ok, ok. Et IMAP du coup ?
C'est le serveur lointain qui stocke et gère les messages. Quel que soit l'appareil avec lequel tu te connectes, ce sera un miroir de ce qui se trouve sur le serveur. Toute action faite à un endroit est répercutée symétriquement et instantanément à un autre endroit. La synchronisation est constante. Le protocole IMAP nécessite une connexion la plus continue possible si on veut gérer de manière fluide ses mails.
Bon, ok, on avance. Comme je consulte mes mails à la fois sur mon téléphone portable et sur mon ordinateur, je vais opter pour l'IMAP. Mais reste à choisir un fournisseur d'accès éthique et respectueux de moi.
Du coup, peut-être que le service offert par ma brique internet que Neutrinet propose et qui tourne sur YunoHost pourrait finalement suffire. Dans ton interface Gmail, dans une phase de transition, tu peux choisir de rediriger cette adresse mail maudite vers une adresse que je peux te créer sur le serveur de mail sur la brique.
Tu me garantis que je vais pas perdre de mail ? C'est quand même pas un peu risqué ?
Non, je peux évidemment rien te garantir. Mais j'ai fait la même chose pour moi et je ne pense pas avoir perdu de mail important, même si je ne peux pas en être sûr, évidemment. Je mets à jour très régulièrement le serveur, c'est le minimum. Et puis dans un premier temps, pour les mails importants, donne-toi une sécurité. Par exemple, si tu attends un message sensible qui n'arrive pas, recontacte la personne par SMS ou tout autre moyen convenu avec elle.
Oh, c'est quand même pas hyper rassurant. Mais bon, je veux bien poursuivre ma démarche de libération. En tout cas, avec toutes ces questions, j'appréhende mieux tout ce qui se joue avec l'envoi d'un mail, ça c'est sûr. D'autant qu'on n'a pas parlé du mail dans le cadre professionnel ou de l'éducation. Là aussi, il y aurait vraiment des trucs à dire sur les serveurs de mail. Truc de foufou, quoi. Bon, j'attends les informations techniques pour découvrir l'intérieur de ma nouvelle boîte mail et je te poutoute, docteur Courrieleur.
Get ta boîte mail, il y aura plein de bisous dedans. À bientôt.
Alors, nous venons d'écouter la chronique à cœur vaillant La Voix est libre de Laurent et Laurette Costi, sobrement intitulée Pop Pop Imap. Laurent et Laurette Costi, que nous devrions normalement retrouver dès la rentrée en septembre 2022 pour la prochaine saison de Libre à vous. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, nous organisons vendredi 1er juillet une réunion ouverte au public pour faire le bilan de cette saison 5 de Libre à vous et préparer la saison 6. Oui, car la semaine prochaine sera la dernière émission de la saison. Et ça fait bien, donc, c'était donc 5 ans de Libre à vous. Beaucoup de belles émissions réalisées d'ailleurs. Alors, cette réunion aura lieu donc à distance via le logiciel libre Big Blue Button le vendredi 1er juillet à 10h30, de 10h30 à minuit. Venez nombreux et nombreuses, là on est l'occasion pour nous d'avoir vos retours en direct. Si vous avez des suggestions à nous faire, on est vraiment preneurs de ces retours et puis de vous entendre tout simplement. Toutes les informations, comme d'habitude, sur la page de l'émission sur libreavoue.org. Je vous rappelle aussi, l'été il fait chaud, des t-shirts c'est toujours mieux. Eh bien, nous vendons encore des t-shirts Libre à vous sur la plateforme En Vente Libre. Alors, puisque c'est la fête de la musique, nous allons parler aussi de nos amis de Zik Libre en Bib, un site qui référence des créations musicales et notamment des créations musicales sous licence libre. et dont nous inspirons régulièrement pour vous proposer des pauses musicales, eh bien Zyklip Rambib a organisé l'élection du meilleur morceau musical de l'année 2022, en tout cas c'est l'édition 2022 de leur élection, et ils ont sélectionné 11 morceaux. Alors même si tous ces morceaux ne sont pas sous licence libre, certaines ont fait le choix par exemple, de restreindre les usages commerciaux, nous vous encourageons quand même bien sûr à aller découvrir cette très belle sélection musicale, et puis nous félicitons la lauréate, Carsie Blanton, ainsi que Lumpini, dont un des morceaux fait partie de cette très belle sélection. Alors pour les législatives 2022, l'April avait à nouveau lancé sa campagne du pacte du logiciel libre, qui permet d'une part aux candidats et aux candidates de s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre, globalement la liberté informatique, si ils ou elles sont élus. Et puis c'est aussi l'occasion plus localement pour des libristes de faire un pont, de faire un lien avec les décideurs publics pour devenir quelque part des référents du logiciel libre auprès des élus. Et 15 signataires de ce pacte ont été élus à l'Assemblée dimanche dernier. Félicitations donc à eux et à elles. Laurent et Laurette Costi évoquaient la campagne organisée par nos amis de la Quadrature du Net contre la Technopolis. Alors l'association a notamment lancé, c'est ce qu'évoquaient Laurent et Laurette, un projet de plainte collective pour lutter contre la surveillance, notamment en particulier. Donc un projet que vous pouvez aller soutenir, auquel vous pouvez participer. Et depuis dimanche, on voit d'autant plus l'importance de s'organiser collectivement pour défendre nos libertés. La version, alors nous vous avions parlé dans une émission, et je n'ai pas noté le numéro, peut-être qu'on m'aidera, mais sinon ce sera facile à retrouver, car sur le site libreavoue.org, il y a aussi une fonction de recherche textuelle, et je vous parle du jeu Gao & Blaze, dont nous avions reçu le concepteur. Et donc la version F-Droid de ce jeu d'enquête narrative, pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles, est enfin désormais disponible. C'était donc le sujet principal de l'émission Libre à vous du 8 mars 2022. Vous voyez ce que fait la fatigue, on ne lit pas la fin de la phrase et on se persuade qu'on n'a pas doté l'info. Voilà, donc en tout cas un jeu très utile pour mieux comprendre les enjeux, et un jeu donc assez riche. Et je parlais d'F-Droid, je vais quand même préciser qu'F-Droid est un magasin d'applicatifs, magasin d'applications libre sur justement Android. Alors si vous êtes amateur de jeux, puisqu'on parle de jeux, mais cette fois-ci de jeux de guerre et de stratégie sur ordinateur, sachez que les équipes du jeu sous licence libre 0AD Empires Ascendant, les concepteurs de ce jeu seront présents à Tours les 1, 2 et 3 juillet dans le cadre du Japan Tours Festival, donc l'occasion de rencontrer les concepteurs d'un jeu libre. Voilà, et globalement, pour retrouver tous les événements en lien avec le libre, ainsi que les associations qui défendent et promeuvent le logiciel libre près de chez vous, sur l'agenda-du-libre.org. Et comme vous l'entendez à notre générique, notre émission se termine. Je remercie donc les personnes qui ont participé à l'émission, Noémie Berger, Thibaut Dallery pour Lumpini, Corentin des Gueules Noires, Minda Lacey, Laure-Élise Daniel, Laurent et Laurette Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, qui a eu effectivement beaucoup à faire, Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondin, Languin, toutes bénévoles à l'April, ainsi qu'Olivio Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Comme je vous le disais, le vendredi 1er juillet à 10h30, vous pouvez nous retrouver à distance pour échanger directement avec vous et nous faire part de ces points en direct. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine et dernière émission de la saison aura lieu en direct mardi 28 juin 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le travail parlementaire. Sujet d'actualité donc. Il s'agira de montrer l'envers du décor, qu'il s'agisse du travail en commission, les groupes politiques, questions importantes, les relations avec la société civile, et aussi de parler de l'émission d'acculturation, de la question de l'acculturation, décidément, des parlementaires aux enjeux des libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, de passer un bel été et puis de passer une belle fête de la musique. On se retrouve mardi 28 juin, et d'ici là, portez-vous bien.